Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Alors, cette table ronde s'appelle le temps des particules. Bien sûr, quand on raconte une histoire, cette histoire se situe dans le temps. Mais on va voir avec nos intervenants que ce temps ne s'écoule pas de la même manière que partout de la même manière. Alors ça dépend si on est une particule, si à quelle vitesse on se déplace. Et donc on va aborder un peu tous ces aspects avec donc Raphaël Granier de Cassagnac. Je représente donc physicien des particules qui travaille au CERN et qui est aussi auteur de science-fiction. Gilles Moutier qui est au CEA, qui est spécialiste des lasers. Et Jean-Claude Duniac qui va jouer le rôle de
l'emmerdeur public.
C'est un métier, hein.
Voilà, qui va faire le lien en fait avec la science-fiction à chaque fois. Puisqu'on parle de particules, je vais demander d'abord à Raphaël très rapidement de nous dire qu'est-ce que c'est que ces particules et qu'est-ce qu'on en sait jusqu'à aujourd'hui de ce qu'on rassemble dans ce qu'on appelle le modèle standard, très pompeusement. Voilà, Raphaël, à toi.
Donc les particules, c'est des choses petites, c'est ce que ça veut dire, particules. Et donc évidemment, au fur et à mesure de l'histoire des sciences, elles ont changé. Ça, il y a très longtemps, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un modèle qui s'appelle le modèle standard, que tu viens de citer, qui regroupe toutes les particules élémentaires qui permettent de décrire tous les processus les plus fondamentaux qu'on a observés, mis à part la gravitation, donc mis à part le mouvement des planètes et les choses comme ça, qui n'a pas de théorie particulière prouvée. Le modèle standard inclut tout le reste, donc ce sont donc toutes les particules qu'on a observées. Elles sont au nombre de, il y a 6 quarks, 3 leptons, 3 neutrinos pour ce qu'on appelle les particules de matière, et puis d'autres particules qui véhiculent les interactions, qui sont le photon, les gluons, pour ceux qui regardaient Téléchat quand ils étaient petits, ils savent ce que c'est, mieux que les physiciens, je pense, et les bosons électrofaibles W et le Z. Et ce modèle manquait d'une particule élémentaire qui s'appelle le boson de Higgs, qui était absolument fondamental. C'est-à-dire que sans elle, il y avait un truc qui était vraiment bancal dans le modèle. On ne pouvait pas expliquer la masse des particules. Et donc ce boson, il a été découvert en 2012, vous le savez, il y a eu le prix Nobel juste après. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on a un modèle des particules qui est assez fermé. A priori, on a une bonne compréhension complète. Il n'y a rien qui est nécessaire pour... de supplémentaire pour que ça marche, quoi. Et on est assez content, en même temps pas trop, parce que si c'est vraiment fermé, la physique des particules est terminée. Heureusement, il y a d'autres choses, hein, la matière noire, l'énergie noire, des choses comme ça.
Bon, t'es au chômage en fait, c'est ça, c'est...
Bah, c'est pour ça que je suis là, quoi.
Donc en fait, ce qui est quand même fascinant, c'est que tout ce qui nous entoure, toute la matière, est faite d'un assemblage de 12 particules élémentaires. C'est
ouais,
absolument
un peu plus
fascinant.
Ou un peu moins, ça dépend comment on compte, mais en gros, ouais, une poignée de particules élémentaires. Pour faire les atomes, on a besoin de quark up, de quark down, de gluons pour les coller ensemble et d'électrons, quoi. Et avec les atomes, on fait essentiellement tout ce que, enfin, on fait ça, quoi. On fait une table, on fait un être humain.
Donc c'est la recette de tout. Alors, il y a quand même des particules remarquables qui ont beaucoup fait rêver. Alors c'est vrai, quand on a été étudiant en physique, il y a des fois on se dit ces particules, c'est presque de la science-fiction. Donc je voudrais demander à Raphaël de nous en citer quelques-unes. On commence par les tachyons.
Ouais, alors les tachyons, ça existe pas d'abord, hein. Enfin, ça existe pas en tant que particule élémentaire, mais c'est dans les Mais c'est possible dans les équations. Il y a beaucoup dans la physique des particules, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans les équations. Et puis au début, ça, comme le boson de Higgs, hein, c'est un des nombreux exemples. C'est-à-dire que ça apparaît dans les équations pour régler des problèmes presque mathématiques ou d'élégance des théories ou des choses comme ça. Et puis finalement, à la fin, on les découvre. Donc les tachyons, c'est un mode qui est autorisé dans les équations de particules qui remonteraient le temps. Mais dans la physique des particules élémentaires, a priori, ça n'existe pas. C'est pas un mode qui est réalisé. Mais dans les équations, il y a un petit indice que ça pourrait exister. Pour moi, ça peut pas exister.
Alors, les tachyons qui remontent le temps, est-ce que ça a donné lieu à des récits de science-fiction ?
Oui, il y a eu beaucoup de récits justement qui ont utilisé le fait qu'on puisse non pas remonter en tant qu'individu le temps, mais qu'on puisse envoyer des informations dans le passé. Ben Ford a par exemple écrit deux bouquins extrêmement célèbres sur le sujet où il y a une catastrophe écologique à une certaine époque parce qu'on a fabriqué un certain produit et les gens envoient des taquillons par l'intermédiaire des laboratoires pour dire ne fabriquez pas ce produit en gros. Voilà, je vous résume le bouquin, ça fait deux tomes, donc vous voyez, je viens de vous faire des économies de lecture énormes, mais ça existait, c'était assez étonnant. Oui. Mais c'est drôlement rigolo, c'est très chouette d'avoir une explication. Puis rappelez-vous une chose, c'est que nous les écrivains de science-fiction, on n'y comprend rien à toutes ces bêtises, hein, on n'est pas assez malin. Par contre, on est vachement content que vous nous fournissiez des explications. C'est-à-dire, c'est pas du tout, comme il dit, ça n'existe pas, mais comme c'est conceptuable dans l'équation, on dit super, je vais m'en servir dans mon bouquin. Et donc, grâce à son protophaseur à Tachyon, il fut capable de transformer le...
Il y a un côté de mettre des jolis mots derrière des trucs, oui, des concepts aussi, qui nous intéressent, quoi.
Oui, on est fait pour ça. Puis la différence par rapport à vous, c'est qu'on est payé pour ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une espèce de pistolet à tachyon. J'ai l'espèce de gros monstre Hulk qui m'attaque. Je fais bich, et il se transforme en bébé. Et ça, c'est vachement pratique parce qu'un bébé, on peut lui donner un coup de pied, c'est pratique. Tandis que Hulk, on peut pas. Vous voyez. Donc là, j'ai un bouquin de science-fiction qui marche bien. Vous voyez, la preuve, ça se vend. Hein. Alors que tes trucs, ça, t'achèteras jamais. Hein.
Ils ont pas rigolé quand j'ai raconté.
Bon, il y a quelque chose qui a beaucoup fait rêver aussi, c'est l'antimatière. Alors, l'antimatière, en deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'antimatière, c'est un truc qui a été découvert dans les années 30. Et pareil, c'est un truc qui était indiqué dans les équations. C'est-à-dire que Dirac, dans les années 30, il bricole l'équation de l'électron relativiste et quantique et il trouve, il se dit, ça ne peut marcher que s'il existe un frère à l'électron, ou à toute autre particule, mais il pensait à l'électron à cette époque-là, dont la charge est nécessairement opposée à sa charge électrique, est nécessairement opposée à celle de l'électron, et qui a pour le reste toutes les mêmes propriétés, en particulier rigoureusement la même masse. Donc dans son coin il fait ça, et dans son coin visiblement il le savait pas, Anderson qui regardait les rayons cosmiques, donc les rayons cosmiques c'est des protons qui arrivent du cosmos, ou des protons ou d'autres choses, mais essentiellement des protons qui arrivent du cosmos, qui tapent les atomes de l'atmosphère. Donc c'est une collision de particules quasi élémentaires et arrive ce qu'on appelle des gerbes, désolé, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, des gerbes de particules qui viennent de la haute atmosphère et qui descendent vers nous, quoi. Et justement, pour la question du temps des particules, il y a un truc intéressant, j'y reviendrai si tu veux. Et donc, dans ces photos de rayons cosmiques, les premières photos de rayons cosmiques, Anderson, il voit qu'il y a des électrons qui tournent dans l'autre sens, donc qui ont une charge opposée à celle de l'électron, c'est la découverte de l'antimatière. Et donc, de fil en aiguille, on découvre toutes les antiparticules de toutes les particules, à part celles qu'on peut pas distinguer l'une de l'autre. Il y en a qu'on peut pas distinguer l'une de l'autre. Il y a des particules qui sont leurs propres antiparticules, le photon, le pion, des trucs comme ça. Et donc toutes les particules ont une sœur, quoi, une antisœur, enfin appelez-la comme vous voulez, une antiparticule. Et la propriété qui est rigolote et puis utile en termes de narration et de science-fiction, c'est que matière et antimatière s'annihilent. C'est-à-dire que si un électron rencontre un positron, pouf, ils disparaissent et ils font de l'énergie, deux photons, donc que de l'énergie. Donc on convertit comme ça la matière en énergie, c'est super explosif, c'est bien plus fort que la puissance nucléaire, qui est en gros la même chose, hein, c'est des changements dans le monde de la physique élémentaire. Donc bien plus, potentiellement plus explosive que ça. Donc ça, en termes de narration, c'est un truc qui a pas mal fait... écrire, on peut citer Dan Brown, Ange et Démon, je sais pas, c'est pour le truc le plus populaire. Vous l'avez vu le film, vous avez lu le livre, c'est bien,
il se passe
c'est
au,
bien,
au CERN,
ils l'ont pas lu.
Qui a été,
oui,
en partie
le ouais, donc au CERN, au CERN, un physicien religieux, donc c'est un peu bizarre, mais ça existe, fabrique un conteneur d'antimatière.
Ouais. La preuve, c'est qu'il y a le CERN, mais il y a aussi les anti-CERN, ouais. Ce qui prouve bien que quelque part ça existe.
Ouais, tout à fait. Voilà.
Voilà. Bon, je m'excuse, c'était, je viens de manger, j'avais honte.
Si vous connaissiez pas Jean-Claude, ben ça y est, vous le connaissez maintenant.
Alors, on a parlé d'armes à antimatière, on a parlé de moteurs à antimatière. Tous ces concepts ressortent de temps en temps et sont même étudiés. Parce que, comme vous le savez, la NASA possède un institut pour l'étude des études extrêmement prospectives et donc ils ne sont pas frileux à l'idée de parfois de se faire embrouiller par les physiciens qui disent mais non c'est pas possible, mais voilà, ces possibilités là sont à l'étude, mais aussi ont servi les des récits de science-fiction.
Pour être tout à fait franc, j'ai moi-même participé pendant 2 ans, à l'époque où j'étais chercheur, à ce qu'on appelait le JIFI, qui était un organisme effectivement de la NASA, qui faisait des trucs mais complètement cinglés, sauf que on étudiait des tas de concepts dont peut-être 1 sur 1000 allait déboucher sur quelque chose. Et on lisait des articles absolument fascinants, et il y en a un, je vous jure que c'est vrai, j'ai reçu à un moment donné quelqu'un qui disait qu'on peut faire voyager un vaisseau pratiquement jusqu'à la vitesse de la lumière en utilisant ce qu'on appelle l'énergie de la mer quantique. C'est-à-dire qu'on a une espèce de représentation mentale où les particules sont plongées dans une espèce de flux d'ondes qu'on appelle la mer quantique, qui est en dessous même de la particule. Et le gars disait, si on arrive à trouver un moyen de prélever cette énergie qui est là disponible partout, on ferait avancer le vaisseau de manière phénoménale. Et il disait simplement, les calculs que j'ai faits montrent que si on prélève plus de, je crois que c'était 20% de l'énergie de la mer subquantique locale, on transforme l'univers en quelque chose d'instable. Et il ajoutait, je ne recommande pas cette solution. Et quand vous êtes écrivain de science-fiction, que vous recevez des articles totalement sérieux de ce genre de choses, vous avez l'imagination qui travaille. Voilà.
Mais sur la temporalité, un truc, ce que tu disais, si nous on dit effectivement qu'on peut pas faire de containers antimatière et tout ça, ça veut pas dire que ça existera pas. Hein. L'histoire des sciences est pavée de gens qui ont découvert des choses et qui étaient persuadés que ça servirait jamais à rien. Et donc ça, c'est un problème de temporalité, quoi. Et Hertz, par exemple, qui a inventé en gros les ondes électromagnétiques, il paraît, j'ai pas vérifié, qu'il aurait dit que les ondes électromagnétiques ne serviraient jamais à rien.
On passe à une autre particule. On a le neutrino, par exemple.
Ah, elle est sympa, celle-là, ouais. Donc le neutrino, c'est une particule dont la masse est toute toute petite. Longtemps, on a cru qu'elle était même nulle. Et donc, qui dit toute petite masse, ben elle va très vite. Plus la masse est petite, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière. Et peut-être, c'est pas vraiment c'est pas vraiment propre au neutrino, mais peut-être je vais glisser vers le.
Alors, je parlais des rayons. Qu'est-ce que ça fait justement quand on va très vite?
Donc les particules sont des objets qu'on appelle relativistes. Ça, ils rentrent dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et la grosse propriété que ça leur confère, c'est que leur temps passe pas de la même façon que le nôtre, en gros. Et ça, ça s'est très bien vérifié dans ce que j'ai raconté sur les rayons cosmiques, dans lesquels il y a des neutrinos et plein d'autres choses. Donc vous fabriquez une particule sur votre table, là elle va pas vite, vous pouvez la regarder son temps de vie, le temps caractéristique qu'elle met à se désintégrer, à disparaître. Et par exemple pour les muons, c'est 2,2 microsecondes, donc un millionième de seconde. Et puis dans les rayons cosmiques, il y a des muons qui sont créés très haut dans l'atmosphère et qui vont vite, parce qu'ils sont créés dans une collision qui est très violente, et donc ils sont boostés, comme on dit, ils sont projetés vers le sol à très haute vitesse. Et s'ils vivaient 2,2 microsecondes, on les verrait pas au sol, ils seraient tous désintégrés avant d'arriver au sol. Or, on en voit plein. Et donc ça, c'est une des très nombreuses preuves expérimentales de ce qu'on appelle la relativité restreinte. La particule, elle vit, elle, dans son référentiel à elle. C'est-à-dire que si vous êtes assis sur elle, vous la voyez voir 2 microsecondes, mais si vous n'êtes pas avec elle et qu'elle va vite, vous avez l'impression qu'elle vit beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est rapport à notre thème sur le temps des particules, je pense que c'est le truc qui est le plus symptomatique du fait que c'est bizarre le temps des particules. C'est propre à tous les objets de relativité restreinte, mais dans la physique des particules, c'est vérifié tous les jours, tout le temps. On utilise tout le temps la relativité restreinte.
Quand on parle de durée de vie, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, c'est un autre truc rigolo, ça. Donc une particule, si vous l'attrapez, elle a toujours, si vous prenez une population de particules à un instant donné, elle a toujours la même probabilité de se désintégrer. C'est-à-dire une particule, même si elle a vécu des millions d'années avant, elle a toujours, il lui reste toujours le même temps de vie. Donc c'est assez différent de nous, vous êtes d'accord ? Et ça lui confère donc une propriété qui s'appelle le temps de vie, qui est essentiellement ça, quoi. C'est effectivement une autre différence assez fondamentale, je pense, de temps entre les particules et le monde macroscopique, quoi. Donc les particules vivent, quelle que soit leur ancienneté, elles ont toujours la même espérance de vie. Ce serait bien pour nous, mais...
Alors si on se met dans l'expérience de pensée d'Einstein et qu'on est assis sur un rayon lumineux, qu'est-ce qu'il adviendrait de nous ?
Je sais pas. sur un rayon lumineux à la vitesse de la lumière. Déjà, on n'aurait pas de masse, donc c'est juste pas possible, en fait. Hein. Ouais. C'est juste pas possible. Nous, on peut pas aller à la vitesse de la lumière. C'est complètement impossible. On peut aller le plus vite possible de la vitesse de la lumière, mais on peut jamais atteindre strictement la vitesse de la lumière.
Et sur place, on se sentirait... Est-ce qu'on se sentirait éternel ?
Oh là là. Jean-Claude, qu'est-ce que t'en penses ? Gilles.
Oui,
voilà, c'est ça. Bon. Tout est relatif. Est-ce qu'on se sentirait éternel ? Non, je pense pas. le temps propre, notre temps à nous, c'est-à-dire que même si nous on va vite, c'est le paradoxe des jumeaux, on peut en parler éventuellement, même si nous on va vite, on vit pas plus longtemps, hein, même si une particule qui va vite, elle vit pas plus longtemps, vu de son point de vue à elle, c'est nous qui avons l'impression qu'elle vit plus longtemps. Donc si vous voulez accéder à, je parlais de l'immortalité ici ce matin, si vous voulez accéder à l'immortalité, ça sert à rien d'aller vite, il faut trouver d'autres choses, ça marchera pas.
c'est mauvais pour le cœur aussi.
Et c'est mauvais pour le cœur.
D'accord.
Dans la prochaine table ronde, on vous explique comment accéder à l'immortalité, mais chut.
C'est ce que j'ai fait ce matin.
Je rappelle, c'est quand même très très long l'immortalité. Hein.
Surtout sur la fin.
Bon, est-ce que tu penses à une autre particule?
Non, je peux juste rajouter un truc sur ce que disait sur l'antimatière. Souvent, vous lirez ici ou là que les antiparticules sont des particules qui remontent le temps. Bizarre ça. Hein. Parce que c'est un truc très mathématique, en fait, c'est pas vrai. En termes de phénomène physique, une antiparticule ne remonte pas le temps. Par contre, l'objet mathématique qui le décrit est le même que celle d'une particule qui remonterait le temps. Donc, juste pour démystifier, si jamais vous avez entendu cet argument, les antiparticules ne remontent pas le temps.
Bien. Bon, si tu as d'autres idées de particules, on revient.
Tu veux dire que les bouquins de science-fiction, c'est de la science-fiction?
Bah ouais.
Oui, c'est ce que la science n'a pas encore réussi à comprendre et à démontrer.
Voilà.
Donc en fait, on a de l'avance sur vous, quoi. C'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Voilà. Dans certains domaines, ça même, c'était. Ouais, il y a des trucs qui sont apparus en science-fiction avant d'apparaître en science.
Alors, Gilles. Donc là, on va s'intéresser aux particules en mouvement, leur dynamique.
Oui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Raphaël, beaucoup de choses ont été pensées, conceptualisées et imaginées avant de les observer et de les voir. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai. Il y a des gros instruments qui existent. On a parlé du CERN, etc., pour mettre en évidence l'existence de telle ou telle particule. Alors moi, je suis pas très bon en maths, donc je fais pas des bons calculs, et je suis plutôt comme Saint Thomas, c'est-à-dire que j'aime bien voir les choses. Et donc une autre façon de concevoir ces particules-là, c'est leur dynamique, leur mouvement. Et de regarder la manière dont, par leur dynamique et par leur mouvement, elles vont s'associer et créer des choses. Et là, les choses, donc on est dans le domaine de la technologie. Ceci étant, les choses ont énormément évolué. C'est alors depuis l'après-guerre, mais se sont emballées dernièrement.
Comment on peut voir le mouvement des particules?
Alors, le mouvement des particules, naturellement, on le voit pas. Il faut donc des outils, des méthodologies qui vont permettre de les mettre en évidence, de les observer, de les capter, sans forcément les détruire. Parce que, célèbre principe, quand on observe quelque chose, quand on mesure quelque chose, on perd autre chose, donc sa position, son énergie ou ce genre de choses. Ceci étant, dans une masse, enfin dans un ensemble, on arrive malgré tout à suivre les choses. Et donc il y a des choses qui ont été développées, des outils qui ont été développés ces dernières années, qui sont assez, scientifiquement parlant, assez phénoménaux. Par exemple, basés sur les lasers. Alors je ne sais pas si les gens connaissent un peu, se rentrer dans le principe des lasers, mais quelques propriétés des lasers, par exemple. Alors, je ne sais pas, dans une pièce, par exemple, dans une chambre, en termes de puissance électrique... Combien vous imaginez avoir de watts dans une chambre d'ado, par exemple? Ouais, 60 watts, par exemple. Bon. Alors, on prend un fil électrique, une rallonge, on amène son lustre dans le jardin, on allume ses 60 watts, puis on prend une fusée et on va sur la Lune. Et on regarde en dessous. Est-ce qu'on voit quelque chose? Rien. Rien du tout. Vous prenez un laser de 20 watts le tiers, vous le dirigez vers la Lune, vous montez sur la Lune, et bien il y a un impact, vous le voyez, et le cône, donc la Lune c'est quoi, c'est 380 000 km à peu près, le cône, ouais, exact, c'est plus simple. Le cône partant de ce faisceau laser qui fait une centaine de microns à peu près, qui arrive sur la Lune, il fait 150 mètres. C'est rien sur 380 000 km. Ça veut dire que c'est de la lumière extrêmement dirigée. C'est aussi de la lumière extrêmement monochromatique, c'est-à-dire que c'est une longueur d'onde extrêmement précise. Ça veut dire qu'on ne perd pas, on ne diffuse pas d'énergie sur d'autres longueurs d'onde. Donc on est capable de manipuler cette lumière de façon extrêmement précise. Première chose. Deuxième chose, c'est que si on veut regarder des dynamiques extrêmement rapides, il faut être capable d'avoir des mesures et des réceptions de la mesure qui sont eux-mêmes extrêmement rapides. Les lasers le permettent. Il y a différentes générations de lasers, des lasers nanosecondes, des lasers femtosecondes. On est maintenant sur des lasers attosecondes. Et récemment a été inauguré, donc c'est à Hambourg, tu as raison, hasard, c'est pas à Berlin, mais la réception se faisait à Berlin. Mais à Hambourg, ce qu'on appelle un laser à électrons libres, alors qui s'appelle X-FEL. Alors électron libre, ça veut dire quoi? Alors, sans rentrer dans le détail d'un laser, comment ça fonctionne un laser? Un laser, il y a une source, donc un laser de pompe, donc un petit laser lui-même, hein, quelque chose qui pousse, qui envoie de l'énergie, qui tombe sur un barreau, qui va exciter les électrons, qui va surpeupler une population, qui va ensuite redescendre et qui va envoyer un faisceau qui va se charger en aller-retour dans un miroir et on va finir par balancer la lumière. Monochromatique, puisque ça correspond à une transition électronique. Ok. Donc on génère de la lumière par des sauts d'électrons à partir d'un matériau. Là, on utilise directement des électrons, donc pas besoin d'un matériau qu'on va exciter. C'est ce qu'on appelle des lasers à électrons libres. Pour ça, ça nécessite un synchrotron. Et donc a été construit, a été mis en service, a été inauguré il y a peu de temps, il y a moins d'un mois à Hambourg, donc un laser à électrons libres qui est du type femtoseconde, donc c'est-à-dire qui est capable d'envoyer un flash d'une durée d'une femtoseconde. Donc une femtoseconde, c'est 10-15 secondes, donc je ne sais pas combien ça fait en milliardième de seconde.
Un millionième de milliardième, c'est ça.
Voilà, ça doit faire un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est quand même pas grand-chose, mais donc avec des puissances crêtes qui peuvent être énormes, c'est-à-dire que toute l'énergie sort en une femtoseconde.
Donc alors, si on éclaire quelque chose en mouvement, donc on donne un flash toutes les milliardièmes de millionièmes de milliardièmes, on peut le dire dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, l'intérêt, c'est que on est capable d'avoir des mesures extrêmement rapides.
Oui.
Donc, sur des événements qui se suivent de façon extrêmement proche. Et donc, l'intérêt, c'est justement de pouvoir remonter à des dynamiques très, très, très rapides. Des dynamiques très, très rapides. Alors, on n'est pas dans le domaine de la relativité, on n'est pas dans le domaine, peut-être que ça viendra un jour, on n'est pas dans le domaine de la vitesse de la lumière, donc on titille pas la relativité. Ceci étant, on est capable de voir des tout premiers débuts de réactions physiques, chimiques, biologiques. Donc des créations à des échelles de temps qui sont donc très 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 inférieures à la seconde, très 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 inférieures, de voir des associations d'atomes, des associations, dissociations d'atomes, qui plus tard vont donner des molécules, des molécules complexes, des virus, etc., etc., mais d'être dans des temps extrêmement courts. Et le fait d'être en capacité de regarder des temps extrêmement, extrêmement courts, quelque part, c'est aussi une manière de remonter dans le temps. Ce que l'on voit n'est que la conséquence de ce qui s'est produit auparavant. Et là, on remonte aux premiers instants de la conception de ces choses-là.
Donc, suivre pas à pas une réaction chimique, alors que d'habitude, on n'a que le résultat.
Alors, dans les tout premiers instants.
Les
tout premiers instants de la réaction chimique, qui sont finalement pas encore de la chimie, qui sont plutôt encore de la physique.
D'accord.
C'est ça qui est intéressant.
Donc, on va dire, les électrons se préparent, se rapprochent, se rassemblent.
Les noyaux se bombardent les uns et les autres.
D'accord. Donc,
et finalement, finissent par s'associer, ou pas.
Et finissent par s'associer ou pas, et on arrive à un résultat qui est un produit.
Et donc à visualiser, là aussi, des choses qui n'ont été que conceptualisées.
D'accord.
Donc on se dit, cela doit se passer de cette manière-là. Et donc à le visualiser.
D'accord.
Aujourd'hui, on commence à en être là. On peut parler aussi, on parlait de d'expérience de pensée, donc de l'imagerie du cerveau, avec le dernier appareil de RMN. Alors dit RMN, ou RMN, j'appelle ça, qui est un neurosmine, le plus gros champ magnétique du monde de 17 Tesla, qui permet de visualiser quasiment le mouvement de l'influx nerveux le long des neurones lorsqu'on est en train de penser à quelque chose. Et de voir la différence de mouvement de cet influx nerveux lorsqu'on passe d'un type de pensée à un autre type de pensée. C'est-à-dire un type de pensée qui est par exemple basé sur de la mémoire et un type de pensée qui est basé sur un calcul l'action, mathématique, ou, oui, par exemple, ou un calcul mathématique. Voilà.
D'accord, d'accord.
Je peux lui poser une question ?
Bien sûr.
C'est quoi, tu as reçu la liste des questions autorisées ?
Oui, 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 il n'y a pas de problème. C'est quoi les échelles de temps de ce genre de processus ? De changer de type de pensée, des choses comme ça ? On va tester ça à quelles échelles de temps ?
Alors, on est inférieur à la seconde pour ce genre de choses. Okay. En fait, on est limité plutôt par le temps de l'acquisition, pas tellement par le temps de la mesure en elle-même, mais par le temps de l'acquisition et de la recomposition derrière.
Alors Jean-Claude, ça doit être fascinant,
oui,
ça.
Je peux déjà dire une chose, c'est que dans mon domaine, bon, je travaille avec la Commission européenne. En ce moment, la Commission européenne, en ce moment même, là, lance un plan cerveau. Je parle sérieusement, c'est-à-dire un plan qui aide à comprendre mieux le cerveau, à essayer de réparer le cerveau, en particulier tout ce qui est maladie. Bon, on connaît Alzheimer, mais il y en a tout un tas d'autres de dégénérescence neuronale. Et quelque chose qui peut travailler aussi sur la dimension d'amélioration du cerveau. C'est-à-dire réfléchir à rendre les processus plus élaborés, soit pour réparer certaines maladies, soit au contraire pour rendre un individu plus, je dirais, plus cognitif ou avec un cerveau qui fonctionne mieux. C'est quelque chose que la Commission a lancé. Le fait qu'on lance un plan, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent mis dessus. Dans les années qui ont précédé, on a eu des choses sur la nanotechnologie, choses comme ça, où comme il y a eu beaucoup d'argent de mise en place, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Donc il faut s'attendre à ce que les gens qui sont jeunes chez vous, là ici dans le public, il y en a quand même un certain nombre, vous ayez un rapport à votre propre cerveau quand vous atteindrez mon âge et que vous apercevrez que ça commence à fatiguer et qu'on a du mal à trouver les pièces, eh bien vous aurez un rapport qui est complètement différent à celui que moi je vais avoir. Pour les gens comme moi, la perspective d'un Alzheimer ou d'une dégénérescence neuronale, elle est terrifiante. Je vous souhaite d'arriver dans une situation dans laquelle vous direz « Bon, ça va se produire, on a le machin avec lequel on va dormir pendant quelques mois, un casque qui va bien, qui va nous corriger le problème. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et il y a une deuxième chose aussi qui me frappe par rapport à ce que vous racontez tous, c'est à quel point vous ne vous rendez pas compte que le monde a changé dans le dernier siècle ou même dans les dernières années, puisque n'oublions pas, les Grecs de l'époque de 2500 ans de ça avaient ce qu'ils appellent l'atome, c'est-à-dire la chose qui par définition ne pouvait pas être coupée.
La plus petite chose insécable.
Donc c'était une erreur, puisque notre ami Raphaël nous a expliqué à quel point en dessous il y avait tout un tas de machins compliqués, mais eux ils avaient l'équivalent d'un petit cube qui était un objet statique aux propriétés définies et qui permettait de constituer toute la matière par assemblage de Lego. C'était un rapport au monde qui était un rapport mécanique, extrêmement simple, extrêmement chouette, et dans lequel on avait le sentiment que, ben, on pouvait comprendre. On mélangeait tel produit avec tel produit, on mettait des Legos ensemble et ça faisait des Legos d'une couleur différente. C'était bien. Et ça entraînait tout un rapport à la science, tout un rapport au monde, qui est un rapport d'horloger, qui est un rapport, on fait tourner la roue dentée, étape par étape, cran par cran, cube par cube. Et on a vu apparaître à la fin du 19e, on a vu apparaître la continuité et la discontinuité, c'est-à-dire le fait que les choses étaient plus ou moins continues et que les cubes, en fait, n'étaient pas aussi stables qu'on les voudrait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas à la fois savoir où ils étaient et à quelle vitesse où ils allaient. C'est le fameux principe d'incertitude qu'on apprenait. On voyait à l'époque, je vous parle d'un temps, on parle du millénaire précédent, mais où je regardais les expériences de physique quand je faisais mes études, et où on avait les chambres à bulles. Et où on voyait la particule qui faisait une trajectoire, puis qu'à un moment donné disparaissait. Puis on la voyait comme ça, puis il y avait quelque chose qui apparaissait là, on disait « Ah, elle est peut-être pas revenue dans le temps, mais on a une trajectoire qui discontinue ». Les gens ne savaient pas bien expliquer. Et maintenant, on arrive à une situation dans laquelle on vous dit « Oui, alors tout ça, c'est très mélangé, c'est très souple. » Et puis derrière, vous avez une théorie mathématique, genre théorie des cordes, qui vous dit « Oui, mais tout ça, en fait, c'est 11 dimensions dont on ne perçoit, nous, que 4. Mais il y en a 7 qui sont repliées, puis c'est replié de telle et telle façon. » Vous avez les groupes de Lie et les espaces de machin dans lequel vous dit « Oui, mais ça fonctionne dans un espace qui n'est pas tout à fait le nôtre, qui est géométrique. » Et donc, on a une vision du monde, d'abord, qui est totalement incompréhensible, hein, soyons clairs, pour au moins quelqu'un comme moi. Et puis surtout, qui n'est pas du tout confortable, parce que ce ne sont pas des Legos qu'on peut assembler. On n'est plus dans la mécanique, on est dans le fluide. Et le passage de la roue dentée à l'élastique fluide, eh ben c'est un changement majeur de notre façon de vivre. Et ça, on s'entraîne tout notre rapport, y compris notre rapport aux gens qui nous entourent, qui cessent d'être des individus pour devenir des fluides. Et donc on ne traite plus les gens comme chacun un individu digne d'eux, on dit « Ah mais ceux-là, c'est des étrangers, des ceci, des cela, des noirs, des blancs, des musulmans. » Donc on n'a plus cette vision de chaque individu respectable dans ses propriétés, sa durée, on est des fluides. Et ça, croyez-moi, la physique nous interpelle un petit peu sur ce sujet.
Tu penses que c'est la faute des physiciens, ça ? Quoi ? Je claque ma dème tout de suite, hein, si tu me démontres ça.
Ce n'est pas du tout la faute des physiciens, c'est juste que nous avons appris un rapport au monde qui n'est plus un rapport de mécanique, qui est un rapport de, je dirais, de, d'instabilité et de fluide. Et une chose aussi qui est importante, c'est que parmi les particules, ce que tu as dit, il y a de l'information. C'est-à-dire l'information est devenue une particule en elle-même, et il y a même eu des théories, je pense, il y a eu des théories comme quoi une partie de la masse manquante, la fameuse masse manquante de l'univers qu'on a cherché pendant longtemps, c'était simplement l'information de couplage de particules qui était présentée d'une façon... Ça a existé. Il y a eu des hypothèses de Moravec, il y a eu des choses comme ça qui étaient assez passionnantes. Bon. Donc, pareil, l'information est devenue une force agissante, alors qu'à l'époque des Grecs, elle n'existait pas, pas sous cette forme-là. Il y avait ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Mais pas l'information.
Il y a un aspect dans ce que tu dis qui est vraiment très intéressant. Ça me fait très souvent penser à cette phrase du physicien Richard Feynman, prix Nobel de 65, prix Nobel 65, je ne sais plus. Qui expliquait que vraiment pour comprendre fondamentalement un objet, le monde, eh bien, il fallait partir au niveau de la physique quantique, de la physique des particules, et reconstituer chaque particule avec ses interactions. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe de reconstituer à partir des particules comportement macroscopique d'un objet.
C'est très complexe et c'est même quasi impossible dans plein de cas.
Et c'est quasi impossible parce que ça nous demande une puissance de calcul.
Et ça m'étonne si Feynman disait que c'était nécessaire parce que...
Non, il disait que c'était cette manière de faire qui allait nous sauver dans la compréhension des objets. Puisque maintenant...
Je suis pas sûr, moi, parce que... Ouais. Bah, tu parlais de confort tout à l'heure, de théorie confortable. Pour une grande partie de ce qui nous entoure, on n'a pas du tout besoin de savoir tout ça, la physique des particules, la relativité, la mécanique quantique, ça, on n'en a pas de manifestation dans nos quotidiens, quoi. Nous, on vit à l'échelle du mètre, on a une bonne perception de ce que c'est qu'un dixième, un centième de seconde, en dessous, ça devient difficile. Au-dessus de milliers d'années, on a du mal aussi, pareil pour les distances, pareil pour la masse, pour tout ça. Donc nous, on vit à une échelle qui est la nôtre, et qu'on comprend bien depuis les Grecs, je pense. C'est pour aller au-delà qu'on a besoin de théories compliquées et de choses qui sont pas intuitives. Et c'est logique que ce soit pas intuitif. Notre intuition, elle est construite sur un monde qui est macroscopique, qui est à notre échelle. Tu vois. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème à me dire, bah ok, si j'attaque la physique de l'infiniment grand, la physique de l'infiniment petit, bah, je vais rien y comprendre. C'est logique qu'on n'y comprenne rien en premier abord. C'est pas à notre échelle.
Oui, mais justement, par rapport à une époque, les Grecs en parlaient, mais même à l'époque des Lumières, les gens disaient ce qui est petit, enfin ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut, ce qui est petit est à l'image. Oui, mais c'est complètement faux, on le sait. Mais c'était confortable de se dire, en admettant qu'on ait eu un microscope, ben, je serais tombé sur des atomes qui étaient ben, dans le fond comme des cubes que je connais, donc juste plus petit, pas tout à fait manipulable simplement, mais le même modèle de pensée que j'ai quand je mets ma table, que je la déplace, ben j'ai la même chose pour des particules. Et je me dis, tiens, quand je me projette dans l'infiniment plus loin, ben c'est pareil. Ben non, pas du tout.
Mais quand tu parles de l'atome, tu n'es pas dans l'infiniment petit.
Oui, je sais bien.
Voilà. Et en fait, la difficulté, c'est que les deux échelles extrêmes, en fait, ne se rejoignent pas. Oui. On peut partir du macroscopique et descendre de plus en plus petit. Là, il y a des lois physiques qui l'expliquent. Puis en dessous, ça ne s'explique plus par les lois physiques. Et partir des particules où il y a des lois physiques, mais le raccordement entre les deux ne se fait pas aujourd'hui.
Or, dans le monde dans lequel on vit, c'est justement l'échelle de quelques centaines ou milliers de kilomètres, quelques, je sais pas, fractions de secondes, etc. On est à peu près vaguement continu, en tout cas on peut espérer, je dirais, passer avec un simple facteur d'échelle en divisant ou en multipliant par 10 de l'un à l'autre. Alors que dès qu'on atteint, je dirais, l'interstellaire, dès qu'on atteint le sous-atomique, vraiment les particules, on ne peut plus. Plus rien n'est transférable, plus rien n'est déduisible de l'étape d'avant. Et ça, c'est, pour un certain nombre de gens, ce n'est pas confortable.
Est-ce que, Gilles, ça peut être une question d'outils pour atteindre ces échelles-là ?
Oh, c'est peut-être une question d'outils, mais c'est un peu la discussion qu'on avait hier soir sur une autre plateforme, qui est que
le fait d'observer un certain nombre de choses ne permet pas forcément de comprendre la manière dont ces choses existent en elles-mêmes. Donc il faut arriver à faire le lien entre ces choses-là. Et donc ça veut dire que nécessairement, ça nécessite des modèles physiques et des équations, des outils mathématiques qui sont adaptés à ça.
Donc les imaginer, les théoriser, les conceptualiser et puis en même temps essayer de les observer.
Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait de pouvoir observer des choses à ces échelles-là, si on arrivait à le faire, le fait de pouvoir observer des choses va donner des indications sur le modèle physique vers lequel il faudrait tendre. Et en même temps, le fait de développer un modèle physique va permettre de dire le type d'observation qu'il faudrait avoir pour confirmer ou infirmer ce modèle-là. Donc ça marche en permanence dans les deux sens. Alors évidemment, lorsqu'on descend dans l'infiniment petit, la difficulté, c'est encore une fois, c'est que la physique n'est pas la même, les vitesses ne sont pas les mêmes, et donc il faut que les outils d'observation soient eux-mêmes adaptés à ces niveaux-là. Le X-Fell, le synchrotron dont je parlais, il permet d'observer des choses sur des temps très courts. On est capable de faire 27 000 observations à la seconde. Ça ne reste que 27 000 observations à la seconde. C'est à la fois phénoménal, mais on est quand même très loin de la vitesse de la lumière et donc très loin de pouvoir caractériser quelque chose qui est du l'ordre de la relativité. Donc cette fracture d'échelle, elle est loin d'être résolue encore.
Et en même temps, plus on veut regarder des choses petites, plus il faut construire grand, et plus ça coûte cher. Il faut se mettre à plusieurs.
Petit détail, si je peux me permettre, on a intérêt à se dépêcher parce que dans 28 minutes 14 secondes, l'univers redémarre.
Oui, c'est ce que je vois.
L'univers redémarre. Ok. Bon. Alors, pourquoi c'est écrit ça?
Tu l'as. Attends, je sais pas, est-ce qu'on peut faire plus tard? Non, voilà.
Voilà. Alors, est-ce que...
Vive l'informatique.
Est-ce qu'on aborde... On prend quelques questions? Allez-y, je ne sais pas s'il y a des micros.
Ça va arriver, ça va arriver.
On a des fils, ouais. On ne peut pas aller loin.
Il y en a pas mal, là, en plus.
Il y avait là. Et puis il y avait une jeune femme, là, après.
Petite question pour Raphaël, plus j'imagine. Selon la loi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que selon vous, le nombre de particules dans l'univers observable est fini ou infini? Et qu'en est-il de la masse totale, densité totale ou poids total éventuellement?
Le nombre de particules dans l'univers est assez bien connu en fait. Il ne faut pas répéter ce que je vais dire, mais je crois que c'est 10 puissance 79.
On ne le répétera pas.
Donc on sait combien il y a de particules dans l'univers. Et après, quand des particules interagissent, la plupart du temps, ces deux particules donnent deux particules. Alors, elles changent de nature éventuellement, mais alors, il y a d'autres cas. Hein. Et in fine, l'énergie totale se conserve. Et donc la masse des particules, c'est de l'énergie. Et donc tout ça doit se conserver. Donc il y a une grande loi de conservation totale qui aboutit en gros aujourd'hui à 10 puissance 79 particules dans l'univers. Et c'est peut-être des protons dans l'univers. Il y a en plus du rayonnement, enfin il y a d'autres choses. Mais donc non, c'est complètement fini et c'est assez bien connu en fait. À moins qu'on ait rien compris à l'histoire. Hein, mais...
On le fait dans l'ordre.
Merci. Moi, je voulais vous poser une question sur un documentaire qui a été projeté cette année aux Utopiales, qui s'appelle Photon, et un documentaire qui essaie de représenter, en fait, du moins pour une partie, l'échelle macroscopique et microscopique, à travers une expérience cinématographique et artistique, et qui essaie de mettre une image, en fait, sur ces concepts qui sont extrêmement complexes. Et du coup, je voulais savoir si vous l'aviez vu, est-ce que vous en avez pensé personne?
Moi, non.
Pas vu, mais rien qu'avec ce que tu dis, j'ai envie de le voir.
Désolé.
Mais est-ce que tu en tires quelque chose? Oui, oui, oui. Attends, on va redonner le micro.
Je pense que c'était... Enfin, je ne sais pas si j'ai utilisé les bons termes, hein, mais de dire que... À l'échelle tout petite, les particules, c'est pas forcément des petites boules comme on nous les expliquait en cours de physique, mais des ondes. Et en fait, il essaie de représenter ça en image, cette espèce de flou entre une boule, une onde, on sait pas très bien. Et ça, c'est Et ça, c'est vachement, vachement cool. Quoi.
C'est une autre conception des choses.
Non, mais l'approche, en tout cas, est super intéressante parce qu'on a, tous cette vision que les particules élémentaires sont des boules de billard. C'est juste complètement faux. Quoi. Dans les noyaux, à la limite, ça marche à peu près, mais en dessous du noyau, c'est plus vrai du tout.
Moi, j'ai une question sur le temps des particules, pour le coup. Au LHC, quelle est la durée de vie des protons qui sont accélérés, de leur point de vue? Et quelle est leur durée de vie du point de vue des observateurs qui sont vous, pour le coup? Et combien de tours ils pourraient faire de 27 km avant de disparaître, s'ils n'étaient pas collisionnés?
Enfin, c'est facile. Le proton... Non, mais le proton est éternel, donc c'est assez facile. c'est une mesure de physique qui est très très importante d'essayer un jour de voir se désintégrer un proton. Ce serait énorme, mais non, le proton est une des rares particules stables du... Alors elle n'est pas du modèle standard parce qu'en plus elle est fabriquée avec d'autres particules, c'est encore plus perturbant parce qu'elle est fabriquée de quarks et de gluons et néanmoins elle est super stable quoi. Les limites expérimentales sur la durée de vie du proton, c'est si je ne me trompe pas 10 puissance 33 années, donc bien supérieure à la durée de vie de l'univers, hein. Enfin la durée de vie, pas la durée de vie de l'univers mais l'âge de l'univers qui est 10,8 milliards d'années. Et donc voilà, le proton c'est bon, les protons, les électrons, donc essentiellement ceux dont on est fait, ça va. Le neutron il se désintègre, mais quand il est avec des protons dans les noyaux, ça va mieux.
Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle l'univers existe toujours alors que normalement l'antimatière et la matière se détruisent l'une l'autre?
Oui,
un peu.
C'est parce que je l'ai décidé comme ça en fait.
Voilà, c'est la faute à Jean-Claude. À peu près, oui.
Jean-Claude le démiurge.
À peu près, oui. C'est-à-dire que on pense. Donc, il y a. Les équations de la physique sont très symétriques entre la matière et l'antimatière. Donc, en fait, ce qu'on appelle la matière, c'est ce dont on est fait, mais ça pourrait être l'antimatière. C'est quasiment pareil. Et on pense, dans le scénario moderne, qu'au début de l'univers, il y avait autant de matière et d'antimatière, et que tout s'est déjà annihilé, en fait. Donc, c'est déjà fait. L'annihilation dont tu parles, elle a déjà eu lieu. Et il y a un mécanisme qui s'appelle, on appelle techniquement la violation de CP, peu importe, qui favorise un tout petit peu l'un des deux par rapport à l'autre. Et donc tout s'annihile sauf un tout petit excès de l'une des deux espèces par rapport à l'autre. C'est celle-là qu'on appelle la matière parce que c'est celle-là dont on est fait. Et voilà. Alors il y a des scénarios un petit peu alternatifs, mais si la matière et l'antimatière s'étaient séparées dans l'univers il y a longtemps, il y aurait quelque part autour de nous des frontières entre la matière et l'antimatière où là il y aurait plein d'annihilation qui se créerait et ça nous enverrait des signaux qu'on voit pas. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on pense vraiment que le bon scénario c'est une grosse annihilation matière-antimatière au début de l'univers avec un tout petit excès de matière, heureusement, on est bien peu de choses, dont la matière qu'on connaît est faite quoi.
Main aussi tout au bout.
J'ai une question sur le boson de Higgs. J'arrive pas du tout à me représenter ce que c'est un champ. Et bon, on dit que les particules n'ont pas de masse du coup, mais est-ce que le boson c'est ce qui fait la jonction entre le champ et les particules, ou est-ce que ça baigne dans une grosse soupe de bosons, et est-ce que aussi ce champ était déjà là au tout début de l'univers, est-ce qu'il est émergent, ou enfin voilà tout ça quoi.
Ça peut nous emmener très loin ça. Alors un champ c'est comme un champ de blé quoi, ou un champ de neige, tu vois, c'est quelque chose qui est là. Alors le champ de blé, le champ de neige, tu le vois, c'est facile. Le champ de X, tu le vois pas, c'est ça qui est difficile à concevoir. Mais c'est là, c'est un champ. Et donc tu te balades dans le champ, éventuellement sans le voir. La façon dont ce champ donne la masse aux particules, c'est que tu te couples. C'est le terme technique, c'est tu te couples au champ, pas de la même façon. Je te donne un exemple simple. Si tu te balades dans la neige, et ben si t'as des skis, que t'es à pied ou que t'as des raquettes, tu vas pas aller à la même vitesse. Donc c'est un peu naïvement ça qui fait que tu as ce champ qui est tout autour de nous. La façon qu'on a d'interagir avec ce champ fait qu'on peut aller plus ou moins vite, c'est-à-dire qu'on ait une masse plus ou moins grande. Donc c'est ça. Tout ça, ça a pour l'instant rien à voir avec le boson de Higgs. C'est ce qu'on appelle le champ de Higgs. Le boson de Higgs, c'est... Alors ça, il faut faire les maths pour s'en convaincre. Dans ce champ de Higgs, il y a une excitation du champ qui peut exister. C'est-à-dire, tu donnes un coup de pied au champ et puis hop, il y a un truc qui se propage dans le champ, comme une onde, si tu veux, dans un champ de blé. Qui passe, et c'est ça le boson de Higgs. Ça, c'est une analogie, elle a des limites, hein, mais c'est une des meilleures analogies qu'il y a, si tu veux, pour avoir une espèce de représentation de ce champ de Higgs, qui est une espèce de une mélasse cosmique, si tu veux, qui baigne l'univers.
Donc en fait, si la particule est sur des skis, sa masse est faible.
C'est ça, un neutrino à des skis et puis un quark top à des pieds, va pieds nus dans la...
D'accord. Il y avait une question là, puis après on revient là. Monsieur est en face de moi.
Là-bas.
Ouais. Moi, je me lance. Question plutôt à destination du CEA. Dans l'accélérateur à particules, bon, on est capable d'observer ces particules, mais qu'est-ce qu'on voit concrètement? Que voit le physicien? Qu'est-ce qu'il analyse? Qu'est-ce qui lui fait dire que, oui, ça, c'est cette particule? Comment sait-on? Que voit-on concrètement?
T'as pas une photo? Mais c'est là où il faut montrer des photos de chambres à brouillard.
On voit des traces, ouais. On mesure des énergies essentiellement, et par recalcul, on recalcule le fait que par rapport à la masse ou à la variation de masse et par rapport à l'énergie mesurée ou à la disparition ou à la variation d'énergie, cela correspond à tel ou tel type de particule. Aujourd'hui, on arrive à visualiser avec des caméras ultra rapides, on arrive à visualiser des flashs, mais ça apporte pas grand chose. Ça fait juste joli à regarder et dans des publications. Mais c'est par recalcul derrière qu'on en déduit tel ou tel type de particules, de tel ou tel type d'énergie ou de tel ou tel type de masse.
Oui,
soit.
C'est
moins joli.
C'est assez vrai parce que quand vous regardez même dans les domaines de la vie quotidienne, vous regardez une voiture, vous savez, avec les pressions de l'air autour de la voiture, dont vous avez du rouge, du bleu, vous voyez bien l'endroit où la pression est ceci et cela. Ça n'existe pas, ça. Vous n'avez aucune caméra qui vous montre ça. Ce que vous récupérez par vos capteurs, ce sont des chiffres, tout simplement. Des mesures d'une certaine catégorie correspondant au capteur. Et ensuite, vous avez quelque chose qui transforme ces chiffres-là dans une échelle qui est choisie par celui qui regarde, donc par vous, et qui dit, tiens, je veux que ça soit bleu en dessous de ça, de plus en plus bleu jusqu'à, et puis au-delà, ça monte au rouge. Et puis, à ce moment-là, vous avez une représentation, vous dites, ah oui, je comprends. Mais elle est complètement fausse. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dans la réalité. C'est juste une façon pour notre œil et notre cerveau de voir quelque chose qui n'est pas un MP listing de chiffres, mais qui est une représentation de la couleur autour du truc. Et ça, c'est le gros problème, c'est qu'à cet endroit-là, si j'ai bien compris, alors je vais peut-être dire des bêtises, vous allez tous me tomber dessus, mais la notion même de couleur, la notion même de vision n'a plus le même sens. Donc vous avez uniquement absolument une valeur numérique.
C'est des valeurs numériques. Et au-delà de ça, ces valeurs numériques sont rentrées dans des modèles de physique. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas dans l'absolu non plus. Si à un moment, Raphaël dit non, pas du tout, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est tout faux, bah, ça veut dire que probablement, ce que l'on a attribué aux valeurs qu'on a mesurées, il va falloir tout refaire.
C'est le modèle qui doit être revu et pensé.
Juste pour renverser l'argument, je veux dire, en fait, tu ne vois pas cette bouteille, tu ne la vois pas. La seule chose que tu vois, c'est des photons dont la longueur d'onde est entre le bleu et le rouge.
Oui, je voulais savoir si ça a encore un sens de parler de déterminisme en physique, ou est-ce qu'on est déterministe au niveau macroscopique et indéterministe au niveau quantique, mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu veux répondre?
Non, mais je pense, effectivement, encore une fois, il y a deux échelles qui ne convergent pas aujourd'hui. Donc dans le domaine dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes macroscopiques, on est déterministe. Et puis de l'autre côté, on se rend bien compte que les choses sont stochastiques. Donc, mais on ne fait pas le lien entre les deux aujourd'hui.
Donc on ne peut pas vraiment trancher la question.
Si, enfin, dans le domaine particulier.
Il faut se situer dans un domaine particulier pouvoir trancher
la
question.
Dans le domaine particulier, on est dans le domaine probabiliste.
Et puis, vous savez, ça peut s'appliquer au niveau macroscopique de manière compréhensible. La décision que vous prenez le vendredi soir d'aller à la campagne parce que votre belle-mère vous a invité est une décision totalement stochastique vu du point de vue de la statistique, vu du point de vue de l'individu qui mesure. Par contre, la personne qui fait une espèce de vue en coupe de la ville en surveillant les flux de circulation va s'apercevoir que le vendredi soir, il y a plein de gens qui partent de la ville pour aller à la campagne. Parmi eux, il y a des millions de gens qui sont partis à la campagne, chacun pour une raison individuellement propre et non déterministe. Mais statistiquement, le phénomène de « il y a des gens qui vont partir à la campagne et il y en aura même plus quand il fait beau », c'est un raisonnement macroscopique parfaitement déterministe. D'accord ? Et le problème qu'on a quelquefois en tant que métaphore vis-à-vis de la de cette physique des particules, c'est ça. On ne sait pas comment la particule individuelle va se comporter parce que le modèle manque. On sait globalement comment une collection de particules dans un contexte donné va tendre statistiquement.
En fait, un grand nombre de mesures stochastiques finissent par donner un résultat déterministe.
Déterministe, c'est ça, voilà. D'accord. C'est encore une fois des millions de gens qui décident de partir à la campagne pour leurs raisons individuelles. Et vu globalement, le mec il dit bon, va y avoir des embouteillages en ce sens-là, au niveau du tunnel de Fourvière quand on revient du ski. Voilà.
On sent le vécu là.
Il y a quelqu'un là qui est juste en face de moi qui lève la. C'est vous, monsieur? Est-ce qu'on a répondu à votre question ou vous voulez quand même poser une question?
Pas tout à fait encore.
Allez-y.
Alors en fait, ma question, elle est basée un peu sur ce qui a été dit juste avant. Ça concerne la perception qu'on a de notre environnement et des différentes échelles, que ce soit macroscopique ou microscopique. Et donc, en étudiant la physique, je me suis souvent rendu compte que j'étais soumis à une frustration, celle de pas saisir les choses. Et je me demandais, en fait, est-ce qu'un jour, vous pensez que le cerveau humain sera apte à percevoir de façon plus naturelle et plus profonde les concepts microscopiques, enfin les concepts tels que les particules et les différents événements qui se produisent à des échelles différentes de la nôtre?
Ouais, enfin oui et non quoi. La Terre est ronde, non? Bon, aux Utopiales d'il y a 1000 ans, peut-être un peu plus, ouais non, 1000 ans c'est pas mal. Il y avait plein de gens dans cette salle qui pouvaient poser la même question que toi sur le fait que la Terre soit ronde ou soit plate. Donc c'est l'éducation ça, c'est-à-dire que plus on est confronté tôt à des concepts qui sont pas les concepts intuitifs. Pour moi la Terre est plate, hein. Si je sors dans la rue c'est évident, la Terre elle est plate quoi. Enfin vous êtes tous d'accord, on a aucune preuve directe que la Terre est ronde. Hein. Enfin, après quand t'as fait le tour du monde tu sais, tu commences à dire ah non quand même elle doit. Et donc oui tu vois, plus on vit dans un monde dans lequel les concepts de plus en plus compliqués sont expliqués de plus en plus tôt, et donc oui on construit une intuition chacun qui est de plus en plus facile. Par contre, c'est très important quand tu enseignes la physique de rien y comprendre au début. Hein. Surtout si tu fais de la mécanique quantique. L'étudiant qui dit qu'il comprend tout de suite, c'est qu'en fait, il n'a rien compris. Il faut du temps pour construire une intuition qui n'est pas la nôtre. Quoi.
Bien, toute dernière question. Parce que...
Il y avait une jeune femme, là, depuis
bon,
tout à l'heure.
Allez-y.
Donc, du coup, ça me rassure un peu ce qui vient d'être dit par rapport à ma question, puisque...
Non, mais personne ne comprend rien, de toute façon, c'est pas grave. Hein.
Voilà, donc, parfaite question de quelqu'un qui ne comprend rien. C'est sûrement une horrible question, mais bon, je la pose quand même. Est-ce que vous aurez des exemples concrets de choses qui ont été créées ou qui vont être faites grâce à ces découvertes et à ça, quelque chose vraiment que moi qui, pour l'instant, je me
dis
juste une question de mais à quoi ça sert tout le temps, de savoir ça, que ça se coupe en quoi et tout. Je suppose que du coup, il y a des vraies avancées dans des domaines et j'aimerais bien avoir des exemples de choses, soit qui ont été faites ou soit qui sont sur le point d'être faites grâce à ça.
Ouais, il y en a plein, hein, mais déjà, c'est très important de faire de la recherche sans savoir à quoi elle va servir. Sinon, on fait pas de rupture, on fait pas de découverte en grande rupture. L'endroit aujourd'hui où il y a le plus d'accélérateurs de particules, l'institution, si tu veux, dans laquelle il y a le plus d'accélérateurs de particules, on parle de particules, c'est quoi à ton avis? C'est les centres de recherche? C'est les hôpitaux. C'est les hôpitaux pour soigner le cancer. Donc, par exemple, la physique des particules, mais c'est parce qu'on parle des particules, hein, c'est vrai pour toutes les sciences, a au moins servi indirectement, hein, à régler ce genre de problème-là. Et il y en a plein des exemples comme ça. Je
pourrais essayer. Alors dans la vie de tous les jours, si j'ose dire, dans la vie de tous les jours, par exemple, alors, je pense que pas mal, en tout cas, d'étudiants l'utilisent. Dans le domaine de la mécanique quantique, l'effet tunnel, bah, le microscope à effet tunnel, par exemple.
Même le GPS n'existe que parce qu'il y a une approche
relativiste. Le GPS n'existe que parce qu'on a été capable de mettre en place une approche relativiste. Votre lecteur laser, votre lecteur Blu-ray n'existe que parce que les lasers ont été conçus. Enfin, il y a tout un tas d'applications dans
l'ordinateur quantique
que vous voyez pas, mais qui sont là. Votre téléphone est un concentré de technologie basé sur des théories qui ont moins de 30 ans.
Alors pour faire un tout petit parallèle quelques secondes, justement, j'y pense parce qu'il y avait un amiral tout à l'heure et je voulais lui poser une question et j'ai pas pu lui poser la question. Il existe aux États-Unis un organisme qui s'appelle la DARPA, Et la DARPA est une agence de programmes et de moyens militaires qui finance des recherches, évidemment prioritairement militaires. Et en fait, ils sont suffisamment ouverts pour ne pas mettre des barrières immédiatement lorsqu'ils voient que l'application n'est pas purement militaire. Et en fait, la majorité très écrasante des découvertes qui ont eu des répercussions dans le monde civil aux États-Unis ont été financées par la DARPA. Ça veut dire que on sait ce qu'on cherche, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Et il ne faut pas s'arrêter en chemin, si on peut ne pas s'arrêter en chemin, évidemment.
Bon, on va s'arrêter sur ces bons mots. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.